roll and slid a G in his suit jacket. Waking up in cold sweats, being told threats. Dreaming of seeing clothes wet, seems he owed debts. Keep on.
That was a crazy time, dog. The funny thing is, I think the bullet was meant for me. After that, shit just got out of hand, man, for real.
Blow, bloodshed, the color's red, but the sheet's white. His heat's bright and lit the night like a street light. He survives, got back up on his feet to rise. Trying to hit four and better just to beat the five. Dealing with baby mama drama. The grandmama want a grand for the baby, she crazy by the dollar. Holla. Learning the game like the back of his hand. Stacking off packages, ran the back of his plan. And thought how long he fought to own him a label. Can't be caught with the chrome in an apartment at home with stones on the table. And that's legit money. He built a studio foe, a crew with a beautiful flow, but can spit ugly. But riding on dubs, he finally did. Ironically slid in the club and thought of signing his kid. He was a young gun, spit deaf like it was evil from the tongue. Run with Nick and represent libido. Gave him a beat in the card. That little nigga went home sick in the zone, ripping heat, it was hard. Couldn't wait to get in the booth to spit this bar. Look at us now, I can't believe it went this far. We kept on.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonne heure, Francis Gavel au micro. Longtemps étiqueté groupe de matrock, autrement dit de rock mathématique du fait même de la durée fleuve de certains de leurs titres, de leur construction rythmique complexe et de leur climat dissonant et saturé, les virtuoses du trio, excusez-moi, ça bug. Les virtuoses du trio Lizzy Strata convoquent, certes toujours à l'aune de ce troisième album, des flagrations électriques et vocales, mais surtout teintent leurs nouveaux morceaux de requindé et de pop, osant aussi bien les chœurs et les guitares acoustiques que les durées courtes et les refrains catchy. En somme, sur l'échiquier du rock, on pourrait finir par se situer entre King Crimson et Nirvana. Mais avant Veil, titre de ce nouveau disque et album du mois de notre émission, les trois Frenchy rockers de Lizzy Strata, nommons-les, Ben Amos Cooper à la batterie et au chant, Théo Guéno à la guitare et Max Roy à la basse, avaient écumé scènes et platines d'un rock sauvage et expérimental, sortant de son lit et de sa torpeur, surtout ce matin, le chroniqueur habitué à se coucher tôt, et l'enjoignant à programmer sur cette même antenne en octobre 2017, un extrait de The Thread, leur premier album. Et si le titre choisi à l'époque s'apparentait à une longue plainte tour à tour sourde et hurlante de celle qui voudrait défaire les armes, référence ici à la Lizzy Strata antique de la pièce d'Aristophane, les deux chansons à écouter en ouverture et conclusion de notre rendez-vous de mars, respectivement Horns et OK, feraient presque figure d'hymne que l'on pourrait qualifier de feutré au regard de la rage antérieure pure. Demeure néanmoins, à l'évidence, d'une rive musicale à l'autre, une même volonté de maintenir un esprit frondeur. Et pour en savoir encore plus sur Lizzy Strata, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Vicious Circle, le label du bon goût rock bordelais. Et oui, ça existe. Et je me tourne, après ce début un petit peu en yaourt, vers Thomas Fouet qui, lui, va nous régaler d'une verve fluide. Bonjour Thomas.
Francis, trop de pression de si bon matin. Merci, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité cinématographique. Nous sommes donc le samedi 23 mars 2024. Arsenal est leader de Première Ligue. Amiens, 9e de Ligue 2. L'équipe peut-elle encore rêver de disputer les barrages en fin de saison? Je n'ignore pas que la question vous brûle les lèvres. Et Sochaux, 9e également, mais de National. Mais quelle idée d'aller perdre à Châteauroux, je vous le demande. Voilà pour l'essentiel de l'actualité dans laquelle j'ai quelques compétences. Et venons-en désormais, voulez-vous bien, à l'activité mécanique appelée cinématographe, à ce qu'il en reste du moins sur les écrans et dans nos cœurs. Je me dois de vous prévenir, cette émission pourrait receler davantage de beauté que vous n'en pourriez supporter si toutefois vous vous êtes habitué à l'ordinaire des sorties en salle. Vous savez, toute cette neige sur l'écran et toute cette buée sur nos lunettes et ces acouphènes dans nos oreilles. En effet, nous avons travaillé aujourd'hui à composer pour vous, millions que vous êtes à nous suivre, un savant mélange entre nouveautés et reprises, et je vous propose de commencer par les secondes, non sans vous avoir préalablement présenté celles et ceux qui sont autour de cette table aujourd'hui. J'ai nommé Julie Loncin de la rédaction des Fiches du Cinéma. Bonjour Julie.
Bonjour Thomas.
Florent Boutet de la rédaction Tiens donc des Fiches du Cinéma. Bonjour Florent.
Bonjour également.
Et Francis, évidemment, se joint à nous. Et je vous propose donc de commencer avec Rivière de nuit, d'ores et déjà en salle. Le film de Kozaburo Yoshimura, sorti en 1958, n'arrive sur nos écrans qu'aujourd'hui. C'est grâce à Carlotta, dont nous reparlons d'ici quelques instants, et dont il faut saluer le travail, l'argument en quelques mots. Nous sommes donc à Kyoto, à la fin des années 50. Kiwa, créatrice et vendeuse d'étoffes et d'accessoires dans la teinturerie de son père, tombe amoureuse d'un homme marié. Ils entament bientôt une relation. Dans le même temps, Kiwa suscite la convoitise d'autres hommes. À la photographie, Kazuo Miyagawa. À l'œuvre notamment, vous excuserez du peu sur Rashomon de Kurosawa, Les Contes de la Lune Vague après la pluie, L'Intendant Sancho et La Rue de la Honte de Mizoguchi. Je n'en cite que quelques-uns, c'est une relation au long cours qu'ont entretenu ces deux-là, ou encore Herbe flottante d'Ozu. Loin de moi l'idée de vouloir réduire le film à sa photo, mais enfin cela participe de la splendeur à laquelle nous avons affaire. C'est un portrait de femme d'une modernité assez frappante, peut-être en conviendrez-vous avec moi, mais c'est également le tableau d'une société en mutation. Le film allie ainsi hardiesse des situations et pudeur de la mise en scène qui, à la faveur d'une scène poignante, plonge les amants dans la pénombre pour saisir, à l'aide d'un lent travelling avant, isolant progressivement l'héroïne dans le cadre. Le dévoilement de sentiments tue jusque-là. Yoshimura travaille surtout tout du long à une capillarité des motifs entre la nature et les étoffes. Kiwa s'inspire pour ses créations des paysages qui l'environnent, transmue monts et rivières en composition flirtant avec l'abstraction. Un jeu de correspondance entre fleurs, visages et peintures, à une traversée des saisons, enfin, d'une averse d'été rapprochant deux amants, à la tombée d'une neige consommant le renoncement d'un cœur qui, ensemble, compose une ronde des peines aussi rivée et fidèle au sentiment de son héroïne qu'attentive à celles et ceux qui l'environnent. Je me cite moi-même dans les Fiches du Cinéma, sinon je vous le demande, qui le fera? Au casting, Fujiko Yamamoto et Ken Uehara, et c'est donc d'ores et déjà en salle. Qu'en avez-vous pensé, chers amis, et surtout, trouvez-vous que je m'emporte? Florent.
Ouais, alors donc,
Comme on est dans un programme de reprise, moi je trouve ça assez intéressant à chaque fois de recontextualiser, parce que, et surtout dans des cinémas aussi familiers et à la fois éloignés que les cinémas d'Extrême-Orient, qui sont un peu des faux amis, moi je trouve. Et surtout qu'on est dans un cinéma de l'âge d'or du classicisme japonais, où quelqu'un comme Kosaburo Yoshimura s'inscrit parfaitement en fait dans ce grand mouvement qui part de Akira Kurosawa jusqu'à Mizoguchi comme La Cité Thomas. C'est quelqu'un qui a été je trouve que la première influence qui est la plus palpable dans le film, c'est Ozu. Et ça pas par hasard, parce qu'il a été le premier assistant d'Ozu pendant plusieurs années. C'est quelqu'un qui réalisait les films déjà dans les années 30, Yoshimura. Et pourtant, il est resté assistant d'Ozu pendant plusieurs films. Et alors, tu parlais de films de Mizoguchi, parmi les plus célèbres, comme l'Intendant Sancho et d'autres. Il faut savoir que tous réalisent des films dans le même studio. C'est le studio de la Daiei au Japon. La notion de studio est très importante, parce que la notion d'entreprise, surtout post-deuxième guerre mondiale, est très structurante. C'est quelque chose qui structure vraiment tout. Et donc le producteur Masaichi Nagata, qui est le producteur du film, a produit quasiment tous ces films-là, et c'est lui qui amène notamment Rashomon, donc à Venise, au début des années 50, et qui fait un petit peu émerger le cinéma nippon à l'international. Donc Yoshimura, c'est quelqu'un qui est peut-être moins connu du grand public occidental encore aujourd'hui, comme tu dis.
Les films malheureusement n'ont pas pour beaucoup été distribués sur notre territoire.
Voilà. Et alors on pourrait se dire Yoshimura est quelqu'un de plus en deuxième ligne par rapport à tout ça. Pourtant, si on cite une évidence, c'est que Ozu, par exemple, n'a pas été distribué jusqu'à la fin des années 70, je crois, même pour ses plus grands classiques qui avaient déjà une quarantaine d'années d'existence. Donc la France, qui pourtant est une terre de cinéma par excellence, a été un petit peu longtemps à la traîne sur ces grands auteurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont jugés trop japonisants. Et c'est vrai que le film, quand on le voit de premier abord, se dit oui, on est dans cette veine très japonisante, parce qu'on est dans une société japonaise qui est entre modernité et contemporanéité. Et pourtant, on s'en détache très vite, moi, je trouve, de Ozu. Si la toile de fond, elle est là, on est quand même dans quelque chose, notamment au niveau musical, on est dans quelque chose de très, très différent. On a de la musique qui est presque, alors je dirais pas, je vais employer des mots expérimental, mais non, très très dynamique, très osé, dans des scènes où on traite de sujets particulièrement déstabilisants. Et c'est quelque chose, donc là en l'occurrence, d'adultère, de valeurs familiales, que Yoshimura bouleverse un petit peu avec la réaction de son personnage principal, qui est constamment dans un dilemme moral autour de ce qu'elle doit faire et ne pas faire dans sa relation avec cet homme marié. Et donc c'est une thématique. Yoshimura, c'est quelqu'un qui est connu pour ça. C'est quelqu'un qui est connu dans ses films pour justement aller rentrer dans des sujets un petit peu compliqués, un peu complexes, et qui sont un peu inhabituels dans un Japon des années 40-50, où on est encore très très conservateur. Et donc c'est un cinéma qui bouleverse pas mal. Donc on est ni chez Ozu, on n'est pas non plus chez Oshima non plus. On n'est pas dans une exaltation du désir permanente. On est dans quelque chose de plus ténu. Et pourtant, on est vraiment dans un cinéma qui détonne, qui utilise la couleur pour la première fois. C'est-à-dire que c'est la première fois pour cet auteur-là qu'il utilise la couleur dans le film. Donc d'où l'importance, comme tu le signalais, de parler de la photographie. Et on est aussi, ça sera mon dernier point avant de laisser la parole, on est dans la révélation de Fujiko Yamamoto, qui est donc une grande actrice qui a travaillé avec plusieurs fois avec Yoshimura, mais aussi plusieurs fois avec d'autres grands réalisateurs que j'ai déjà cités, et qui est une véritable révélation dans le film, parce qu'elle est exceptionnelle, elle porte absolument tout le film sur ses épaules. Elle est ce modèle de la femme moderne japonaise qui est entrepreneuse, qui veut décider de sa vie. On est là aussi dans ce trope qu'on retrouve chez Ozu, du mariage arrangé, de la volonté de marier à un certain âge, mais encore une fois amené de façon différente. Et Yamamoto est vraiment une très très belle révélation dans le film.
Julie ?
Je suis d'accord avec tout ce que Florent a dit jusqu'à présent. Moi, j'ai été particulièrement frappée par le personnage que je trouve... c'est un personnage féminin étonnant, quoi, très très, comme tu disais, moderne et fort et indépendant. Donc il y a cette question dès le début, comme elle va avoir 30 ans, son entourage voudrait qu'elle se marie, et elle n'en éprouve pas la nécessité. C'est juste elle est épanouie dans son activité de création de textiles et de tissus et d'étoffes, et c'est pas une question importante pour, enfin si, c'est une question importante du fait de son entourage, mais c'est pas elle sa priorité. Et puis effectivement, il y a cette somptuosité de l'image et des couleurs, parce que donc, c'est, tu disais, le premier film en couleur du réalisateur, mais aussi du directeur de la photographie, apparemment. Et ces échos qui sont tout le temps faits entre les tissus qu'elle crée et les images, quand tu parlais de capillarité des motifs, parce que figure-toi qu'à chaque fois que tu dis que personne ne va pas te citer, je prévois de le faire, et c'est exactement la phrase que tu cites que je prévois de citer. donc
je te remercie, ça me touche beaucoup.
Mais
mesdames et messieurs, j'ai une lectrice. Le mois prochain, on tente les deux.
Mais je recommande aussi fortement ce film qui est très très beau.
Francis, tu as vu toi aussi Rivière de nuit?
Oui, et j'ai effectivement complètement découvert un cinéaste que évidemment je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai repensé un petit peu au mélodrame, hein, et j'avais lu à propos des mélos de Douglas Sirk qu'il constituait une opposition en fait entre un pôle fragile et un pôle le stable. Donc il y avait deux protagonistes et chacun représentait ses pôles, et j'ai eu vraiment le sentiment ici qu'en fait les deux pôles étaient réunis en un seul et même personnage, c'est-à-dire ce personnage féminin qui à la fois était un pôle stable, j'ai envie de dire de par son intransigeance envers les autres, mais aussi envers elle-même, et avec une exigence, Florent parlait de principe moral, mais une exigence qui l'empêche de jouir d'un bonheur dont elle estime qu'il est construit sur un malheur qui arrive, et je ne vais pas le révéler, à l'homme aimé. Et puis en même temps un pôle fragile, parce qu'elle est emportée par cette passion pour un homme marié, dans son corps, dans son esprit. Et je trouvais du coup que c'était passionnant de voir ce personnage se combattre lui-même pendant le film. Après, j'avais envie un petit peu de le faire raisonner, le film, avec aujourd'hui, avec l'époque de sa ressortie en fait, et je trouve que c'est effectivement un regard assez intéressant sur l'évolution du Japon d'après-guerre, avec une entrée dans le capitalisme, et alors le film m'a énormément surpris de ce côté-là, et le rapport à l'organisation du travail qui se met en place, et je trouve qu'il y a des moments comme ça très très politiques sur la place du travail, que ce soit dans la teinture avec l'assistant qui est là. Et puis il y a cette chose très très drôle aussi, finalement, quelque part, c'est la réflexion de sa jeune sœur qui, elle, part tout récemment mariée à Tokyo, donc qui quitte, on va dire, la province pour la nouvelle capitale économique du Japon, et qui évoque les déboires professionnels de son époux. Et j'ai pas pu m'empêcher, alors je ne vais pas te citer Thomas, je vais citer le film exceptionnellement, et elle dit à un moment, parlant de son jeune époux, elle dit: la vie de salarié, c'est déprimant, travailler de si longues journées pour gagner si peu. Et dans ces choses là je trouve le film absolument incroyable, absolument moderne. C'est un de ses aspects modernes, je veux dire, il résonne complètement avec aujourd'hui. Je vais exprès de m'axer sur aujourd'hui, finalement, pour pousser les gens à aller le voir, pas se dire, ouais, c'est un film avec des problématiques, je mets des guillemets, à l'ancienne. Non, elle résonne très bien aujourd'hui. Alors il y en a une qui résonne encore plus, non pas magnifiquement, parce que le terme n'est pas adéquat, mais en complète adéquation avec ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé dans le cinéma américain et qui aujourd'hui arrive sur le cinéma français. Donc évidemment, je veux parler de Me Too, et je trouve qu'il y a une espèce de Me Too avant l'heure dans le film. On est face à une jeune femme qui est une artiste talentueuse, qui peut réussir et qui attire évidemment des convoitises professionnelles, mais j'ai envie de dire surtout des convoitises concupiscentes. Et il y a une scène absolument incroyable avec un industriel réputé qui l'invite à venir dans sa chambre d'hôtel. Donc là, ça résonne quand même très fortement. Évidemment, en tête à tête, pour parler travail, dira-t-on. Et ce qui est passionnant dans le film, et ce qui est passionnant dans l'écriture, c'est de voir comment elle détourne, et évidemment je ne vais pas le raconter, mais comment elle détourne ce face-à-face, et comment elle remet ce type à sa place. Et je trouve ça absolument fascinant et fabuleux, et comment ça résonne très très fort par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et puis j'ai envie de finir en tissant un lien, et je suis désolé si le jeu de mots est affreux, mais avec un autre film qui pourrait presque résonner avec celui-ci, qui est un film plus récent, on en a parlé d'ailleurs à l'émission, qui est Le Bleu du Caftan, de Myriam Touzani, parce que je trouve que, certes, on est face à deux sociétés différentes, la société japonaise, la société marocaine, mais on est aussi face à deux films qui présentent l'exigence d'un métier artisanal et aussi sa disparition peut-être face à l'industrialisation de et de l'époque dans le Rivière de Nuit et plus récente dans le Bleu du Caftan. Évidemment, et ça c'est une facilité peut-être critique, j'en conviens, mais ces deux films aussi qui travaille sur le sens du toucher, sur le soyeux de l'étoffe, et évidemment on va voir comme ça une expression du désir, peut-être contrariée, et peut-être que c'est aussi le cas dans le film, mais aussi un goût de la peau de l'autre. Et puis je trouve que ces deux films, avec une détermination féminine dans les deux cas, à aller au bout d'un objectif qui soit intime et professionnel, et que presque, et je mets des guillemots au mot qui va suivre, au final les valeurs s'inverseraient, et que le pôle fragile deviendrait masculin, et le pôle stable deviendrait féminin. Voilà un petit peu un point de vue sur ce film que j'ai découvert avec énormément de plaisir.
Merci à tous les trois. Rivières de Nuit de Kozaburo Yoshimura, c'est donc à découvrir en salle dès à présent, et nous en venons au film suivant. Évocation de la vie de l'actrice Huang Lingyu, star du cinéma chinois entre la fin des années 20 et le milieu des années 30, suicidée à l'âge de 24 ans et interprétée par Maggie Cheung. Center Stage, le film de Stanley Kwan, avait mis un certain temps à sortir sur nos écrans. Réalisé en 1991, il avait trouvé le chemin des salles françaises 8 ans plus tard, et le voici de retour dans une version restaurée, dans un montage inédit au cinéma, validé par le cinéaste lui-même, et pour cela remercions donc une nouvelle fois la société Carlotta. Présenté à Berlin, le film avait reçu l'Ours d'Argent et Maggie Cheung le prix de la meilleure actrice. Dans la reconstitution de la vie de Huang Lingyu, qui compose l'essentiel du film, s'ajoutent par endroits des inserts documentaires, en l'espèce des conversations avec Maggie Cheung, ainsi qu'avec des actrices et metteurs en scène ayant connu et travaillé avec la star, ainsi que des extraits de quelques-uns des films dans lesquels elle a joué. Et le film, d'une certaine façon, m'a semblé faire écho également au statut de Maggie Cheung, qui est bien vivante évidemment, on en est très heureux, mais qui n'a plus tourné depuis la fin des années 2000 et qui vit, sinon recluse, à l'écart des médias. Si l'on veut ajouter à la mise en abîme ou à la confusion, c'est selon, rappelons Kerma Vep, la série d'Olivier Assayas adaptée ou plutôt déclinée de son film du même nom et qui mettait en scène Maggie Cheung reprenant le rôle de Musidora dans une nouvelle adaptation des Vampires de Louis Feuillade. On en revient là encore au premier temps du cinéma, ceux du muet. Voyez planer l'absence de l'actrice sur son récit, tout ça est un peu compliqué me direz-vous, mais par ailleurs, le film se suffit à lui-même et son dispositif ne fait jamais obstacle ni au surgissement de l'émotion ni à la clarté du dialogue ainsi instauré entre le réel et la fiction cinéma d'hier et d'aujourd'hui. Que reste-t-il d'une interprète dès lors qu'elle disparaît des écrans? Stanley Kwan, dans le film, pose d'ailleurs la question à Maggie Cheung. « Penses-tu ou espères-tu, lui dit-il, que dans 50 ans, les gens se souviendront de toi ?» La question, elle est vite répondue, serais-je tenté de dire. Comment oublier Maggie Cheung, dont la présence dans le film m'a paru être éblouissante? À ses côtés, Karina Lau, Wei-Zi Lee et Tony Leung Ka-Fai, et c'est de retour en salle à compter du 10 avril. Une fois encore, suis-je victime d'un enthousiasme excessif? Moi qui, pourtant, suis très peu sujet à ce mal. Madame, messieurs, c'est à vous. J'ai envie de me tourner vers Julie.
Non, je partage tout à fait ton enthousiasme à nouveau. De manière générale, je suis frappée par l'élégance de la sélection, de manière générale, pour une bonne partie des films.
Des années d'expérience, celui-là particulièrement.
Mais on doit surtout cette sélection au final à Thomas.
Bien sûr. Je trouve que, déjà, rien que l'image est absolument magnifique et qu'il y a une grâce incroyable des acteurs et de la photographie qui fait qu'on ne se lasse pas de le regarder. De regarder ce film et je le trouve particulièrement réussi dans la mise en abîme entre l'histoire de l'actrice dont il est question, donc Huang Lingyu, et le tournage du film en train de se faire, donc la manière de faire dialoguer le passé et le présent en montrant le tournage du film, les interviews avec les acteurs qui interprètent les acteurs des films des années 30, et puis le fait de montrer les extraits de films de cette époque et les reconstitutions aussi de l'histoire du personnage. Autant dans Rivière de Nuit, tu notais aussi qu'il n'y avait pas de jugement sur le personnage, sur le fait qu'elle est dans une histoire adultère. Mais ici, dans Center Stage, c'est le jugement extérieur qui pousse l'actrice à se suicider. Il n'y a pas de suspense sur la question. Elle a mis fin à ses jours et on le sait dès le début.
On le sait dès le début, je l'ai annoncé, je l'ai rappelé. Elle se serait suicidée suite à la campagne de presse qui avait été menée contre elle.
Oui. Mais donc, oui, je trouve que c'est un biopic entre guillemets assez original et fin dans son approche et particulièrement délicat et élégant, voilà.
Francis, mais je dois préciser, Francis,
oui,
pour nos chères auditrices, chers auditeurs, que tu es venu avec
le
dossier de presse de Center Stage, dossier de presse datant de l'époque de sa première sortie française.
Oui, voilà. Et alors, tu fais bien, on va faire le côté proustien alors tout de suite, parce qu'effectivement, quand tu m'as parlé de Center Stage et de sa ressortie, alors qui s'inscrit dans le cadre d'une rétrospective autour de quatre films de Stanley Kwan, je me suis dit, mais il me semble que quelque part chez moi, et je fais comme si rien n'était rangé, alors que je sais très bien où c'est, j'ai peut-être encore le dossier de presse, sachant que je les garde assez peu. J'ai celui de Lenin Freedom, pourquoi je ne sais pas, de Ken Loach, et je me suis dit, je regarde, et je retrouve effectivement le dossier de presse de Center Stage de l'époque, hein, donc à l'époque qui sort le 1er décembre 1999. L'émission, elle a à peine plus d'un an quand le film sort, et je retrouve aussi le dossier de la diffusion sur Arte en 2004 de La Divine, qui est le film emblématique de Huang Yingyu, et désolé pour mon très mauvais accent chinois, et je me dis c'est incroyable d'avoir gardé ces éléments-là. Pourquoi plus spécifiquement ceux-là que d'autres, et qu'est-ce qui fait qu'on a envie de rester avec ce film? Alors je dois dire que de toute façon je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire d'autre, parce que tu as déjà dit tellement de choses qui effectivement sont les choses auxquelles j'ai pensé en revoyant le film, les destins entre guillemets parallèles entre Huang Yingyu et Maggie Cheung, cette manière d'être de cette mise à l'écart. Ce qui m'a intéressé finalement, c'est de me dire, mais alors pourquoi donc le film, il date de 1991. À Berlin, l'année suivante, Maggie Cheung obtient l'Ours d'argent de la meilleure actrice pour ce film. Et le film, il sort en France en 1999 uniquement. Et pourquoi autant de temps? Parce que du coup, on a l'impression que Maggie Cheung, à ce moment-là, reste pour l'instant une star hongkongaise, et c'est tout. Et je me dis que, effectivement, dans la cinéphilie, à l'époque, Maggie Cheung, elle représente pas grand-chose. Et que donc, on attend finalement la sortie du film d'Olivia Sayas, Irma Vep, en 1996.
Et puis éventuellement, la vague de sortie de films de Wong Kar-wai également.
Aussi, effectivement. Et on se dit à ce moment-là, tiens, peut-être... J'ai pas les éléments qui pourraient permettre de répondre complètement, c'est plus une sensation, se dire d'un seul coup on peut sortir ce film. En plus, ce film, comme tu l'as très bien précisé, il a des correspondances avec Irma Vep, c'est un film méta sur le cinéma en train de se faire, et puis c'est on parle d'une héroïne, d'une grande actrice de chaque côté, quoi, et donc les films peuvent parler ensemble. Donc allons-y. Et c'est vrai qu'on peut se dire que finalement, ce film, L'explosion de Maggie Cheung, c'est après, c'est en 2000, avec In the Mood for Love, et que quelque part, j'ai vraiment eu la sensation, là, en le revoyant, puisqu'on parlait de qualité visuelle, dans son esthétisme, qu'il a déjà... Quelque part, il préfigure un petit peu In the Mood for Love. Moi, j'ai trouvé ça dans la manière dont les choses sont cadrées entre lumière et ombre. Évidemment, l'élégance classique des costumes, cette sensualité de la danse qu'il y a dans la reconstitution des années 1930. J'y ai vu finalement comme un prémisse, et on ne saura pas, effectivement, Wong Kar-wai ne dira pas si c'est un film qui l'a influencé ou pas, mais il y avait comme ça quelque chose qui concourait à mon sens. Donc voilà un petit peu... toutes les choses que je pourrais dire par rapport au film. Et j'avais juste envie, en fait, de vous livrer alors un petit extrait du dossier de presse de cette époque qui était coordonné et rédigé par Bérénice Reynaud, qui était même une spécialiste du cinéma asiatique. Et Et donc, qui disait que Wang Lingyu n'avait reçu aucune formation et jouait d'instinct avec un naturel imbattable. Certains ont attribué son suicide à une identification croissante aux rôles les plus mélodramatiques qu'on lui demandait de jouer. D'autres y ont vu une protestation désespérée contre la souillure de son innocence et de son intégrité imposée par la presse à scandale. Ce qui demeure non moins mystérieux, c'est la magie, la sensualité voilée qu'elle dégage à l'écran. Ses sentiments, son attitude, ses gestes collaient tout naturellement à son rôle. Pas le moindre effort. Elle jouait sans s'être préparée, disaient ses collègues de la Lianhua. Lianhua, c'est la société de production où ont été faits les films. Le premier occidental à avoir vraiment repéré son talent, l'historien Geleda, écrit « J'ai pris grand plaisir à observer, de film en film, la maturation de son style, ce mélange délicat de naturalisme et de stylisation. Comme Garbeau, elle avait la capacité de transformer un scénario banal et de vous faire croire à l'authenticité de la joie et de la souffrance représentée. Dans le cas d'un scénario intéressant, d'un travail sérieux, son jeu était frappant. C'était une des grandes actrices de l'histoire du cinéma. » Et on pourra, juste pour conclure, dire qu'effectivement, on disait d'elle qu'elle était une pellicule très sensible.
Florent.
Ouais, alors beaucoup de choses à dire sur Stanley Kwan et Center Stage. Moi, j'avais la chance de l'avoir découvert et d'avoir un coffret d'HK Vidéo qui avait sorti trois films de cet auteur qui est un peu à l'image de ce qu'on disait sur Yoshimura juste avant, était pas une figure les plus connues même des cinéphiles européens occidentaux d'une scène pourtant connue dans un certain type de niche. Hein, on parle Hong Kong, on parle d'un cinéma chinois particulier. Et lui pourtant ressemble plus, je trouve, à certaines choses qu'on peut voir chez Wu Xiaoxian que à des gens comme John Woo ou d'autres, Ringo Lam, etc. Là, on est vraiment dans quelque chose de très différent, aux frontières du documentaire et de la fiction, de la recréation d'un personnage historique. Alors, d'habitude, c'est Francis qui le fait plutôt, ce point-là, et qui l'a fait pour le film précédent, donc je vais m'amuser à le faire de mon côté. Moi, je trouve qu'il y a un commentaire social, et un commentaire social sur le travail et sur l'histoire, qui est extrêmement fascinant aussi dans le film, parce que Wang Lingyu, c'est une actrice qui est de Shanghai. Elle est de Shanghai, qui est une ville très particulière en Chine, parce que c'est une ville qui, dès le 19e siècle, a une occupation étrangère très forte, et qui est une place forte, en fait, des arts et notamment du cinéma dans les années 20, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres, qui est un cas quasiment unique en Chine, et qui explique que ce studio, le studio de la Linhua, soit aussi dynamique à l'époque, et soit, dans le film, on voit qu'on est encore dans le cinéma muet dans les années 30 en Chine. Il faut un peu juste en deux mots l'expliquer, c'est que
il est question d'ailleurs à la toute fin du film du premier film parlant de l'arrivée d'un technicien qui va justement mettre en place le système de synchronisation du son et permettre éventuellement de passer au parlant.
Technicien occidental d'ailleurs.
Absolument.
Qui est le seul élément occidental du film, qui a quasiment pas de dialogue d'ailleurs, on lui explique en anglais deux, trois choses. Mais donc oui, c'est jusqu'en 1934-1935, on est encore dans le cinéma muet en Orient. C'est-à-dire au Japon aussi, c'est la même chose. En France, en 1930, c'est déjà fini. Aux États-Unis, je crois que le chanteur de jazz, c'est 1927. Donc on a un certain décalage par rapport à ça, et la tradition cinématographique en Extrême-Orient repousse un petit peu ces frontières-là. Donc c'est ce qui permet à quelqu'un comme ça. D'ailleurs, il y a tout un jeu dans le film autour du fait qu'elle est donc de Shanghai, elle ne parle pas mandarin, et que si on passe au parlant, il faut qu'elle passe au mandarin, parce que c'est la langue la plus pratiquée en Chine, et qu'il y a un peu cette obligation de parler au plus grand nombre, parce que c'est une industrie, et qu'on ne peut pas s'exprimer soit en langue de Shanghai, soit en cantonais. Donc cet aspect culturel, cet aspect politique et social est très fort, parce que dans les années 20, il y a ce qu'on appelle une espèce de ce qu'on appelle la guerre civile chinoise, donc entre le Kuomintang de Chiang Kai-shek et le parti communiste chinois qui est émergent. Et elle dit dans le film que elle en a un petit peu assez, d'ailleurs ce qui est un peu le fond de sa dépression, qu'on la cantonne à des rôles. On parle de Marlene Dietrich dans le film, avec cette espèce de cantonnement à une noblesse. Le mot noblesse est employé à des rôles de femme fatale, de façon de jouer, d'un certain maniérisme.
Oui, elle veut jouer des femmes du peuple, elle veut jouer des ouvrières.
Exactement, elle veut s'inscrire dans un tissu social et dans une histoire politique très forte, et qui tourne autour de cette guerre civile chinoise qui a vu le massacre à Shanghai dans les années 20. Enfin, il y a des choses très fortes au niveau historique dans lequel elle s'inscrit directement. Et qui, en tant qu'artiste, l'ont motivé à sortir d'un carcan dans lequel on l'avait mise. Et je suis très content parce que dans ce programme qu'on propose aujourd'hui, il y a beaucoup justement de liens et beaucoup de choses très fortes. Je trouve que même dans le film de Terence Davis, dont on parlera tout à l'heure, on parlait de la notion du mariage, elle intervient également. Et là, tout comme dans Rivière de Nuit, on a quelque part la place de la femme dans la société. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans une époque où elle est très minorée, très contrôlée par le système patriarcal? Et comment est-ce que là, dans Rivière de Nuit que dans ce film-là, c'est le mur, le plafond de verre auquel elle se heurte, et dans le cadre de ses mariages qu'on voit dans le film, dans le cadre de ses histoires d'amour, comment est-ce qu'elle est objectivée par les hommes, et comment elle se retrouve confinée quasiment au suicide à cause de ça. Je trouve que c'est, encore une fois, et je réemploie le terme que j'employais tout à l'heure, c'est donné dans une modernité qui est quand même assez extraordinaire. Un personnage qui ne peut exister peut-être que dans une, surtout en Chine, que dans une communauté artistique très déterminée comme celui qui est décrit. Et donc oui, ça nous ramène tout ça à Maggie Cheung. Et effectivement, comme vous l'avez très justement dit, qui est un secret un petit peu bien caché en Occident, parce que As Tears Go By de Wong Kar-wai en France n'est ressorti que l'année dernière, je crois, sorti pour la première fois que l'année dernière. Alors évidemment, tous les films qu'elle avait pu faire avec Jackie Chan, Le Marin des Mers et compagnie, Police Story.
C'est d'ailleurs crédité à la coproduction de ce film.
Oui, exactement, ouais, c'est assez étonnant, mais bon, il y a une relation très forte avec Maggie Cheung, c'est quand même lui qui lui a donné ses premiers rôles au cinéma. Mais bon, en Occident, tout ça, c'est un petit peu sous le manteau. Et c'est effectivement extrêmement étonnant que ça soit Asayas qui a fait découvrir Ossia Ossienne en Occident, faut pas l'oublier, c'est lui qui ramène Ossia Ossienne en Occident, qui traduit en langue romane son nom pour la première fois. Le HHH, c'est lui qui le crée complètement. Le film donne vraiment l'impression de quelqu'un qui... Est-ce qu'elle est vraiment actrice? Est-ce que c'est elle? Alors, vous connaissez ma marotte, ceux qui écoutent l'émission pour les jeux vidéo. Il y avait le jeu vidéo Immortalité de Sam Barlow qui s'amusait justement qui est un film tourné, découpé en plusieurs morceaux où on doit, avec un instrument de montage à l'ancien, la fameuse Moviola, reconstituer un film. Et où on a une actrice qui aurait fait que trois films et qui aurait mystérieusement disparu. Et j'ai l'impression qu'on est quasiment dans ça. On est dans quelqu'un qui est là, dont on sait pas trop, avec son regard extérieur, est-ce qu'elle est vraiment actrice, et qui porte cette espèce de discours méta. Et ça rend le film encore plus impressionnant et foisonnant, avec, moi, ce que j'adore, cette espèce de côté d'historien du cinéma de Stanley Kwan, qui nous insère des morceaux. Je voyais des morceaux, on est à la radio, on le voit pas, mais dans les dossiers de presse que Francis a amené, où on voit donc la divine, qu'il a cité, on voit des inserts comme ça du film, et le film insère donc ces petits morceaux de film, en précisant aussi quand les films sont disparus, parce que le cinéma muet, c'est 98% de films disparus à l'heure actuelle, il faut le rappeler.
C'est surtout pour moi, d'ailleurs, parmi les moments les plus émouvants du film, ceux dans lesquels Stanley Kwan met en scène des tournages de films dont on n'a plus aucune trace aujourd'hui. Il imagine le tournage de ces films.
Et du coup, il les fait vivre. C'est le seul moyen de les faire vivre, comme d'en parler maintenant, de les citer, c'est leur donner une existence, et ça permet de rappeler qu'ils ont été là, qu'ils ont été importants dans une histoire du cinéma au niveau national, mais aussi international. Et donc le film est une réussite pour toutes ces raisons-là, parce qu'il est à plusieurs niveaux différents, et que qui fait exister ce cinéma.
Merci à vous. Center Stage de Stanley Kwan, c'est donc à redécouvrir. Ou à redécouvrir, j'ai dit deux fois redécouvrir. Découvrez-le. En salle à partir du 10 avril, ce même jour, tu le disais tout à l'heure, Francis, ressortent également trois autres films de Stanley Kwan, L'Agneau, Amour déchu et Rouge, ainsi que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui ressort en salle aussi, mais ça n'a rien à voir. Voilà, je vous propose à présent une première pause musicale, et puis on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre ce tour d'horizon des actualités et des ressorties en salle.
Once you see my black mascara run from you into my mama's hands, you selfish man, you understand what you want. Once you see my slick eyeliner blend into my black designer bags under my eyes, oh how you try to understand.
all serious. Tell them hoes to be manning their business. Heart broke, but I'm still looking like millions. Six shots down, so I can't feel this. Talking my ear off, cocaine. Got a bitch gassed up, propane. Now I can't come down, or it pours, or underneath my eyes, how it rains. There's clouds up high, but the stars on the ceiling of the Royce. I hear this pain drown every other noise. You talk to me dumb, that you didn't have a choice. I'm here now, fucked up, thinking there's a why. I'm out here sinking in these dark nights. Nights, oh yeah.
De retour sur Radio Libertaire, vous écoutez longtemps, je me suis couché de bonne heure, Thomas Feu au micro, en compagnie de Francis Gavalet de la rédaction des fiches du cinéma, Julien Loncin et Florent Boutet pour cette table ronde consacrée à l'actualité des sorties en salle. À l'instant, nous écoutions Black Mascara de Rai, cet extrait de son premier album paru l'année dernière, l'inégal mais parfois passionnant, My 21st Century Blues, et nous en revenons à l'actualité des sorties en salle. Avec une nouvelle ressortie, plus précisément, L'Antilope, la Renarde et le Lièvre. C'est le nom du programme de reprise de court-métrage d'animation que nous propose ce mois-ci Malavida. Nous avions évoqué sur ces mêmes ondes l'an passé Le Petit Hérisson dans la Brume, sublime film d'animation signé Yuri Norstein et qui ressortait accompagné de trois autres courts-métrages, notamment Le Très Beau, la Moufle de Roman Kachanov. Mais qu'en est-il du programme qui nous intéresse aujourd'hui ? Un lièvre vivait donc dans sa maison de bois et une renarde dans sa maison de glace. Mais le printemps venu, la maison de glace fond et la renarde déloge le lièvre de son logis. C'est l'argument de La Renarde et le Lièvre, signé donc Yuri Norstein, et d'une durée de 12 minutes, lequel précède L'Antilope d'or de Lev Atamanov, une petite demi-heure au compteur, et qui met donc en scène quant à lui un jeune homme plein de courage, un maharaja fourbe et vénal, et une antilope douée de propriétés magiques, en l'occurrence celle de semer sur son passage des montagnes de pièces d'or. La Renarde et le Lièvre est un film de 1973, L'Antilope d'or date de 1954, et dernière information, La Renarde et le Lièvre, je le précise, est ici raconté par Damien Bonnard, ce qui me rend cet acteur encore plus sympathique que ce n'était déjà le cas. Mais avant que nous en venions à ce programme, tu voulais, Francis, je crois, évoquer Le Petit Hérisson dans la Brume que j'évoquais à l'instant. Veux-tu nous expliquer pourquoi ?
Alors, en fait, je ne vais peut-être pas évoquer Le Petit Hérisson dans la Brume, mais qu'est-ce qu'il est méchant. Non, en fait, il y a effectivement, on en avait parlé l'année dernière.
C'est dommage. C'est une cascade qui avait été répétée hors antenne.
Oui, mais je sais bien et je m'en excuse. Mais en tout cas, effectivement, on avait donc parlé de ce programme, Le Petit Hérisson dans la Brume et Autres Merveilles, à l'occasion de sa sortie en salle en avril de l'année dernière. Donc là, on a la chance qu'il sorte en DVD, juste en même temps, finalement, à un mois près, que cette nouvelle sortie en salle d'un film de Norstein, puisque là, le point d'ancrage entre les deux, c'est le cinéma de Yuri Norstein. Mais ce qui est passionnant et ce qui fait que les deux résonnent complètement, c'est que dans l'édition DVD, on a un bonus qui n'était pas dans le programme salle, qui est La ballerine sur le pont de Lev Atamanov. Et donc, ce qui fait que, évidemment, l'un et l'autre se renvoient. Et donc, ça devient très intéressant parce que, finalement, on peut se livrer au jeu des comparaisons. La première, effectivement, c'est de dire qu'on est face à deux générations de cinéastes qui travaillent donc à Soyuz Moon Film, qui est le studio d'État créé en 1938 par les soviétiques, et qui, dans le contexte de la guerre froide, a un double objectif, en fait. C'est à la fois faire des films à fin de propagande, et en même temps œuvrer à la reconnaissance de la vitalité créatrice de l'animation soviétique à travers les festivals mondiaux. Alors, on a donc deux auteurs côte à côte, l'un derrière l'autre plus tôt, puisque l'un est l'aîné. L'aîné, c'est Lev Atamanov, qui est né en 1905 et qui est disparu en 1981. C'est pour situer un petit peu. Alors, on peut dire que Atamanov, quelque part, j'ose, je vais dire, c'est le Walt Disney de l'Est. C'est un auteur très prolixe. On va rappeler que la première Reine des Neiges, on lui doit, et que c'était en 1957. Et que l'Antilope d'Or, avec son contexte de l'Inde et puis d'un petit garçon comme ça proche des animaux, on peut penser plus tard à peut-être une influence que n'a pas reconnue Walt Disney autour du Livre de la Jungle. Parce qu'on peut rappeler que le Livre de la Jungle, c'est 1967, et comme tu le disais, l'Antilope d'Or, c'est 1954. Et pour dire que quand même le film a été vu à l'étranger, c'est la mention spéciale du jury à Cannes en 1955. Et si on se penche un peu sur ce qu'il y avait en programmation court-métrage à l'époque, il faut quand même savoir que la Palme d'Or du court est remise à Blinky Team Blank de Norman McLaren. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose de conséquent en termes d'animation et de diversité de l'animation dans cette édition de 1954. On espère la même chose pour évidemment celle de 2024.
Tu peux toujours rêver.
Voilà, dit-il à Thomas Fouay lui-même en charge de sélection à Cannes.
Ah oui, mais à la semaine. Mais à la semaine. Alors, attention. Injure, injustice. Et donc, rectification, je suis sélectionneur à la semaine de la critique, qui témoigne une attention toute particulière au cinéma d'animation, et ce, depuis des années.
Voilà, comme ça c'est dit, et c'est très bien. Et justement, alors moi j'avais envie de citer... Alors, je vais citer je crois peut-être le plus grand historien, critique de cinéma, du cinéma d'animation, et avec un livre culte qui malheureusement n'est plus édité, mais qu'on peut encore trouver parfois dans des farfouilles. C'est Gian Alberto Bendazzi, et c'est son Cartoons, le cinéma d'animation, 1892-1992. Et il dit ceci de Lev Atamanov. Attention, c'est rude. Dépourvus de génie, ces films furent appréciés par le public et même par les jurys des festivals qui leur accordèrent quelques récompenses. Dans les années 60 et 70, Atamanov continue de produire des œuvres pour enfants, mais il ne négligea pas non plus des films plus ambitieux, comme La danseuse sur le bateau, c'était le titre à l'époque de La mannerie sur le pont, où il chantait la beauté pure de l'art. Alors, effectivement, on peut considérer que c'est peut-être un peu excessif de la part de Bendazzi, parce que ce qu'on peut dire en rapprochant les deux films, La ballerine et L'antilope, c'est que tous les deux possèdent la même élégance du trait et la même fluidité du mouvement. Donc ça, c'est important quand même de reconnaître des choses à Lev Atamanov. Et puis j'en arrive au cadet, qui est né en 1941 et qui évidemment est Yuri Lowenstein. Là, on va dire que c'est un artiste inspiré, mais rare à ce jour, puisque sa filmographie, c'est 5 films qui tiennent en presque 2 heures de projection. Mais dans lesquels il y a 2 monuments du cinéma. Et je dis du cinéma, pas du cinéma uniquement d'animation, qui sont poétiques et visuels. Et évidemment, Le petit hérisson dans la brume, qu'on peut retrouver sur le DVD. Si vous ne l'avez jamais vu, chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez le regarder, c'est dès 3 ans, mais même 73 ans, ça marche aussi. Et Le Comte des Contes, en 1979. Et on espère que d'ailleurs, Malavida, je ne sais pas si c'est prévu, va prolonger ses ressorties de Nordenstein avec un programme autour du Comte des Contes. Et j'ai envie de dire que Le Comte des Contes, par sa poésie, par son aspect visuel, ça a la même importance que le Citizen Kane d'Orson Welles. Voilà, c'est dit. Et ici, donc, on a un film qui pourrait sembler mineur, qui est La Renarde et le Lièvre. Et pourtant, alors, il y a des choses importantes dedans. C'est la première collaboration avec Francesca Yarbousova, qui est en charge de la création graphique et qui accompagnera Lowenstein sur les 2 chefs-d'œuvre que j'ai cités. Et puis, il y a également des fulgurances de mise en scène. On s'en rend peut-être pas compte. C'est comme quand on regarde La Moufle de Kachanov. On se rend pas compte qu'il y a des fulgurances de mise en scène où on voit pas le point de passage d'une moufle qui se transforme en petit chien, et on voit pas où est le plan qui permet de passer de l'un à l'autre. C'est juste fulgurant et on s'y attend pas. Et là, il y a un moment magnifique, et donc je vous livre, en référence à quelqu'un qui est parfois venu dans cette émission, je vous livre un bon plan. Et donc on a un travelling latéral de la droite vers la gauche, entre 2 images qui sont conçues comme 2 tapisseries dans des cadres distincts, et où à la fois 2 actions, alors 2 rythmes d'animation s'expriment de manière indépendante, tout en permettant une progression narrative à rebours, puisque comme on lit souvent de gauche à droite, là, en fait, l'action va à l'envers. C'est l'épisode avec l'ours qui n'arrive pas à chasser la renarde de la maison. Et ça, c'est juste une merveille de mise en scène. Et puis, ce qu'on peut trouver aussi dans ce film-là, c'est une même thématique de la consolation. C'est-à-dire, face aux peurs du monde, et bien seule l'amitié, la chaleur de l'âtre ou du samovar réchauffe les corps et les âmes. Il y a le petit hérisson et l'ourson dans le petit hérisson dans la brume. Et puis, il y a le lièvre et le coq dans la renarde, puisque le coq va aider le lièvre à la fin. Et puis, ben, je finirai juste en disant que je parlais de Katchanov, là, pour la mouffe qu'on retrouve sur le DVD. Et franchement, le DVD, la mouffe dedans, rien que pour ça, vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez l'acheter pour tout le programme. Mais qu'on retrouve, c'est Katchanov et chez Atamanov, comme ça je dis à Gianberto Bendazita, un petit peu exagéré sur ce point, c'est qu'il y a une marque de l'indépendance féminine, et que cette marque de l'indépendance féminine, c'est la lecture, car comme on le sait, les femmes qui lisent sont dangereuses.
Julie.
Oui.
Tu peux réagir sur le film ou sur les propos de Francis?
Alors, je vais commencer par le film.
Fort bien.
Le film est aussi intéressant parce que ça présente deux techniques d'animation tout à fait différentes. Donc il y a la renarde et le lièvre. Tout d'abord, c'est en papier découpé. Donc c'est, enfin, il y a un côté deux dimensions, enfin pas de profondeur, et comme une série de tableaux. Enfin, ça fonctionne comme des petits tableaux, et ce que je trouve, particulièrement riche en détails. Enfin, ce qui m'a marqué dans ce film-là, c'est tous les petits éléments qui l'associent aux différents personnages, l'ours en train de tresser des couronnes de fleurs, enfin plein de petits détails qui sont pas abordés dans l'intrigue spécialement, mais qui ajoutent au personnage et à l'image. Et le deuxième est en rotoscopie, c'est-à-dire que c'est à partir de prises de vue réelles, et c'est redessiné à partir de prises de vue réelles, si j'ai bien compris. Et donc tu parlais de la fluidité de l'animation, et c'est vrai que mettre les deux côte à côte, c'est particulièrement intéressant, que ça montre la diversité des techniques qui existent. Et donc je parlais de la richesse des détails dans La Renarde et le Lièvre, et pour moi, enfin, ça compense un peu la simplicité narrative, le côté un peu ligne claire de l'intrigue, parce que ce sont des contes, donc ça fonctionne d'une manière très simple. C'est la quête d'un personnage aidé par différents personnages lui viennent en aide successivement.
Avec un schéma répétitif.
Qui peut sembler un peu monotone quelque part. Donc ici, pour moi, c'était compensé par la richesse visuelle. Mais voilà, ce serait pour moi ma réserve par rapport à ces deux petits films. Peut-être quelque chose d'un peu frustrant dans la simplicité narrative. Voilà.
Florent.
Alors moi, j'avais la chance d'être là la première fois qu'on avait traité de Yuri Norstein, et donc du Hérisson dans la brume. Et j'ai pris le même plaisir. Alors évidemment, le Hérisson dans la brume, c'est peut-être le plus grand film de ces deux programmes, et de très très loin. Mais j'ai pris le même plaisir et la même presque gourmandise à regarder ces films, parce que déjà on se situe dans un programme soviétique, et d'une manière plus ample dans une vision très russe de passer des messages et de raconter une histoire, dans le sens où on est toujours dans la métaphore, et on est toujours à dissimuler son message au sein de choses complètement camouflé. Et là il y a des choses assez évidentes quand même. On parlait de l'exaltation de la notion de la solidarité dans La Renarde et le Lièvre, mais je trouve ça, moi le côté récursif, le côté répétitif justement du motif que tu décrivais, Julie, dans La Renarde et le Lièvre, ça me séduit beaucoup. Parce que dans la répétition, il arrive à créer quelque chose, notamment à faire ressentir le désespoir et l'espèce de laisser-aller, cette mise en abîme du personnage du lièvre qui abandonne complètement et qui crée un sentiment justement dans les autres personnages qui interviennent, jusqu'à l'arrivée du fameux coq qui exalte, lui, le sentiment
jusqu'à
de fraternité.
Jusqu'à émouvoir le loup, qui voulait pourtant le manger.
Oui.
Je trouve que c'est cette récursivité-là qui crée aussi cette possibilité émotionnelle et ce très joli moment. Donc, et puis effectivement, alors après, je sais qu'il n'y a rien de plus insultant envers des cinéastes d'animation que de parler du fait qu'il y a beaucoup de travail dans le film. Et je sais que
c'est une plaisanterie que je fais souvent avec Marie-Pauline.
Marie-Pauline, ça l'énerve beaucoup.
Oui. Je lui dis,
c'est elle qui m'avait mis en garde.
Ça a dû prendre du temps à dessiner tout ça.
Mais malgré tout, comment ne pas noter que justement ce côté papier découpé et cette merveille d'animation, 12 minutes, on parle de film de 12 minutes, quoi. Moi, je suis complètement. J'étais en ébahissement devant ce qu'a expliqué Francis. Je trouve ça, sur la façon dont il analyse la mise en scène du film, et c'est quelques plans, parce qu'on parle de quelques plans. Et effectivement, on est dans des trouvailles exceptionnelles. Et ça rejoint mon propos sur le fait qu'on est tout le temps dans la métaphore, et on est tout le temps. Et l'animation et la façon dont le film est animé, ça permet de faire passer ça aussi. Ça permet de faire passer des choses. Deux films, donc de 54 et de 73, et ça c'est toujours ma marotte, c'est que 54 et 73, ça te dit, c'est deux moments importants de l'histoire de l'Union soviétique. Parce que si on parle d'international et de festival, il faut aussi parler du fait que 54, c'est la mort de Staline. On est dans quelque chose qui commence dans la déstalinisation, et 73, au contraire, on est en le dur de la période Brejnev. Donc ça parle aussi de ça, ça parle aussi de ce qu'on peut dire, et d'une forme de détente de la société, et d'autre part d'une forme de durcissement. Les films sont aussi le miroir de ce moment de l'histoire, de quelque chose qui n'existe plus, l'Union soviétique, et qui, même si ça s'est un peu recréé d'une façon un peu monstrueuse ces derniers temps. J'ai dégusté ça avec gourmandise, parce que même l'Antilope d'or qui peut exalter des choses un petit peu faciles, on pourrait parler, oui, effectivement, le livre de la jungle, on est dedans à 10 000%, et du rapport à la nature, de la communion avec les animaux contre la rapacité de quelque chose qui pourrait être le capitalisme, et c'est très très évident. Et pourtant, je sais pas, moi je marche complètement, je suis complètement dedans, et je pense qu'on est touché, ouais, on est touché par tout ça, c'est très bien fait. Ça a été un vrai plaisir, ce petit programme.
C'est une émission dans laquelle on parle de mise en scène, de technique et de contextualisation historique, ça me plaît beaucoup. L'Antilope d'or, la renarde et le lièvre, le programme est donc d'ores et déjà en salle. Allez, quelques nouveautés à présent. Terence Davis nous a quittés le 7 octobre dernier à l'âge de 77 ans. Auteur d'une œuvre relativement disparate, entamée au milieu des années 70, il nous laisse un dernier film, Les Carnets de Siegfried, d'ores et déjà en salle, et que nous évoquons à présent. Le sujet, en quelques mots, je reprends, cher Florent, ton résumé dans les fiches du cinéma. Non, c'est pas du tout toi, d'accord.
Non, désolé, j'aurais aimé, mais non.
Bon, bah très bien. Je reprends, cher Florent, le résumé signé par quelqu'un d'autre dans les fiches du cinéma. Londres, 1914. Le jeune poète Siegfried Sassoon s'engage dans l'armée britannique lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Récompensé de la croix militaire pour sa bravoure, Siegfried refuse de retourner au front après sa convalescence. Horrifié par son expérience des tranchées et le décès au combat de son frère, il s'agit donc d'une évocation de l'auteur britannique Siegfried Sassoon qui s'étend, je le précise, bien au-delà de la Première Guerre mondiale et se penche notamment sur sa vie sentimentale. De l'auteur, je veux dire Terence Davis, je dois hélas l'avouer, je n'avais vu jusqu'à présent que deux films de Sunset Song et le splendide de Deep Blue Sea, probablement le plus beau rôle à ce jour de Rachel Weisz. Au casting, ici Jack Lowden dans le rôle de Sassoon, et à ses côtés Peter Capaldi et Simon Russell Beale, et le film est en salle depuis le 6 mars. J'ai pu entendre dire ça et là qu'il fallait pourquoi pas passer outre un relatif ennui pour enfin profiter des beautés du film. Je crois savoir que pour toi, l'ennui a longtemps prédominé, cher Florent. Qui n'a pas signé le résumé dans les fiches.
Moi, mon tout petit préambule, c'est que j'adore m'ennuyer au cinéma. Donc, c'est un sujet un peu polémique parce que les gens prennent ça comme une attaque à charge. Moi, je trouve que.
Mais je ne sais plus qui disait d'ailleurs récemment sur un réseau social que je ne nommerai pas qu'on était toutes et tous responsables de notre ennui au cinéma, d'une certaine façon.
Absolument, et c'est pas forcément quelque chose de négatif.
Non,
et
mais je vais vous donner un petit élément de réflexion, c'est pour vous faire patienter avant de vous passer la parole.
Donc oui, on est quand même. On est alors un dénominateur commun. Alors à part sur le programme court, évidemment, mais on est sur des films assez longs. Hein, Center Stage, il faisait plus de 2h30. Celui-là fait 2h17, je crois. On est quand même sur des durées conséquentes. Et on est sur la figure d'un poète. Donc un poète du début du XXe siècle, avec un anglais très chatoyant, très littéraire, dans un milieu social très déterminé. Et donc oui, il faut s'accrocher. Mais bien souvent au cinéma, quand on s'accroche, on peut avoir aussi des belles surprises. Terence Davis, ouais, donc au film posthume, c'est pas forcément, ça fait partie de cette classe de cinéastes qu'on connaît, mais dont on n'a pas forcément vu les films. Parce que oui, il faut avoir vu Distant Voices, il faut avoir vu La Bible de Néon, The Deep Blue Sea dont tu parles, oui, Rachel Weisz, c'est peut-être un petit peu plus familier. Mais on est face à quelqu'un, ouais, qu'on connaît pas forcément, dont on a entendu parler, et donc avec une allure de film très académique où on est voilà dans des milieux britanniques, on boit le thé, c'est feutré, les salons. Mais je trouve que c'est encore une fois une image, comme je le disais sur le film de Yoshimura, où on explose vite le cadre. Là, on explose aussi le cadre parce qu'on est un peu sur une phase B de cette période-là. On a Jack Lowden, donc qui joue le personnage principal de Siegfried Sassoon, donc Siegfried, mais qui n'est pas allemand, hein, pas du tout. D'ailleurs, il s'en amuse dans le film, et qui est au contraire très britannique, qui est donc un ancien poilu entre guillemets de la Première Guerre mondiale du côté britannique, et qui lui donc a été sur le théâtre des opérations, au contraire d'un autre personnage très important, donc le personnage d'Ivor, qui est un peu son amoureux transi, enfin dont il est amoureux transi plutôt, dans le film, qui lui était un peu planqué à l'arrière, et motif qu'il ne manque pas de lui faire remarquer. Et donc il explose le cadre de Terence Davis en nous présentant une histoire, déjà d'une histoire d'amour donc homosexuelle, à une époque où on cite les grandes figures,
Oscar Wilde,
comme Oscar Wilde évidemment, avec quelqu'un qui l'a connu, je crois, qui l'a défendu. On est dans un milieu donc très particulier, et on est sur cette notion de placard, et sur tout à l'heure j'en parlais, donc la notion de mariage ressurgit aussi dans le film, avec comment est-ce que justement le renoncement ultime dans cette communauté là c'est de se marier pour rentrer dans le rang et fonder famille. Et en quoi est-ce que c'est vécu donc comme une forme de mort par les personnages, et ce qui est certainement un petit peu le nœud du film, et une forme de discours sous-jacent, et donc et aussi dans sa narration, ce qui est assez exceptionnel je trouve dans la mise en scène, c'est on est dans quelque chose qui d'apparence au premier regard pourrait être très linéaire et donc très ennuyeux pour le spectateur, et qui finit par exploser en par des subterfuges, bon, que je livrerai pas forcément, mais où la temporalité en quelque sorte est éclatée, et où on voyage un petit peu au gré des différents âges que peuvent avoir les personnages. Et je trouve ça extrêmement bien fait. Ça met en perspective énormément de choses. Et il y a une forme de cruauté aussi au cœur du film qui est particulièrement, j'ai envie de dire presque savoureuse. Est-ce que la cruauté peut être savoureuse? Je vous laisse y réfléchir. Mais
Ça vous fait une autre question à méditer en attendant.
Et ça c'est vraiment vraiment très très réussi dans le film. Il y a un moment donné le personnage de la mère donc de Siegfried Sassoon qui il lui fait rencontrer donc le personnage d'Ivor, et il lui dit j'ai vu de la cruauté dans ses yeux, et c'est, je pense que c'est un commentaire qui résume pas mal de choses dans le film. Il y a énormément de cruauté. Tout le monde se fait du mal dans ce film quasiment. Les uns ou les autres se vengent par ricochet interposé. Et ça en fait un objet vraiment fascinant.
Julie, tu as vu toi aussi le film de Terence Davis?
Oui. Je suis aussi d'accord avec ce qu'a dit Florent. Moi, j'ai été particulièrement frappée par l'amertume du film, en fait. La manière dont finit le personnage, entre guillemets, et la tonalité que ça donne à l'ensemble, enfin, de voir ce désenchantement et qui est en effet assez cruel. Ce que j'ai trouvé assez réussi aussi, c'est que souvent ce qui me pose problème dans les biopics, c'est le côté, on a l'impression que la personne ne s'est exprimée qu'en citation. Enfin, qu'elle n'a dit que des grandes phrases qui ont caractérisé. Et là, je trouve que c'est pas du tout l'impression que ça donne. Je trouve qu'il y a aussi une très très grande élégance à nouveau du jeu et des dialogues. Effectivement, c'est assez bavard. Mais moi, j'ai pas du tout ressenti d'ennui. Par contre, effectivement, je comprends que ça puisse, parce que c'est long et que foisonnant, mais j'ai trouvé assez habilement construit. Mais oui, donc je suis frappée par cette impression d'amertume, et donc cette idée du mariage dont tu parlais, du fait de... pour toute cette communauté homosexuelle qui, quelque part, au bout d'un moment, se retrouve contrainte de rentrer dans le rang et de faire un mariage conformiste pour pouvoir vivre, mais paradoxalement, en le vivant comme une mort. Et donc oui, c'est un film particulièrement intéressant aussi. Voilà.
Les carnets de Siegfried de Terence Davis, et c'est déjà en salle. Je vous propose à présent une nouvelle pause musicale, et puis on se retrouve bien évidemment dans quelques instants pour amorcer le dernier virage, dirais-je, de cette émission. Hijack it. Hijack it like a jacket. Stimulated thoughts with that National Basketball Association crossover. Always force over for EC2. My paragraphs dip and move. I'm up there, my hand can stretch and touch the moon. Hustle hard right on Lexington. My shopping gives them messages. My vocals, I pass them off to messengers. The American dream like Heems. Words slide on the Bruckner breeze all through Queens. Women can't wait in they tight jeans. Most rappers, I pull them up like shirt sleeves. That's just me, T.O.P. I'm Obi with the topping. Burning rap like a turkey sausage. Who cares and who do and don't pay homage? On the floor, that's them, that's that vomit. Yeah, they on the floor. Most rappers are on the floor.
Bars elementary like Abbott. Me, I'm a Rakawa, 11-11 jacket. You can't see me, I'm in the next tax bracket. I break your nose with your pickleball racket. She tapping me, Obi, make her come quickly. Gave her a rose and she gave me a hickey. She stay on point like her last name Brunson. Gave her my heart at the Emirates in London. Post up in the crib and you know we play the Sims. I copped her Orange Julius, we watch above the rim. Traveled 1,000 miles, we sitting on a queue. We shop at Kiehl's, she said she never heard of you. I'm in my Knicks bag, it's deep like Mary Poppins. My plate full with the seasoning and toppings. I'm selling drugs to the parents on the school street. Yo, check me out, I got a song with Kool Keith.
Faux et Micro en compagnie de Francis Gavel et de la rédaction des Fiches du Cinéma pour cette table ronde consacrée à l'actualité des sorties. À l'instant, nous écoutions Obi-Toppin, Darling de Hymns, en compagnie de Lagan et Cool Keith. Cet extrait de La Fente d'Art, le très beau dernier album de Hymns, donc ancien du trio Das Racist. Un album sur lequel on retrouve Saul Williams, Quell Chris ou encore Open Mike Eagle, autant de bonnes raisons d'y jeter une oreille. Retour à présent donc à l'actualité en salle. Avec Une famille, Christine Angot passe à la réalisation pour creuser un sujet qu'elle avait dans ses livres et à plusieurs reprises évoqué, celui de l'inceste dont, dès l'âge de 13 ans, elle avait été la victime à l'occasion d'un déplacement professionnel. Christine Angot est donc amenée à revenir à Strasbourg, où ont eu lieu les viols qu'elle a subis de la part de son père, lequel est décédé en 1999. Mais l'autrice va trouver celles et celui qui, alors, n'ont pas réagi, n'ont pas su ou voulu dire les choses. Je cite Nicolas Marcadet, qui a beaucoup aimé le film dans les Fiches du Cinéma, film d'écrivaine. Une famille n'est pas un film littéraire. Film sur la parole, il n'est pas un film de discours. Il y a bien une voix off, mais qui n'est jamais un commentaire ou un guide. Tout ce que le film porte en lui d'abîme philosophique et humain, de contenu politique, de roman familial, est ici ramassé dans un geste bref, pardon, limpide, à la fois elliptique et direct, toujours exactement positionné là où sont le sens et l'émotion. Fin de la citation. Pour prolonger les propos de Nicolas, je dirais pour ma part que l'intransigeance d'Angot, sa façon d'inlassablement reprendre ses interlocuteurs sur les mots qu'ils utilisent, sur leur infaculté ou leur lâcheté à dire les choses telles qu'elles furent, non, ce n'était pas une relation avec un homme, c'était le viol d'un père, me touche infiniment. C'est un travail d'écrivaine qui, des mots, connaît le sens et dont elle fait ici œuvre de cinéaste. Et le film est en salle depuis ce mercredi. Julie, Florent, vous l'avez vu. Julie, nous en parlions avant la prise d'antenne.
Oui, j'ai également beaucoup aimé le film. Je trouve qu'il est extrêmement puissant. dans sa simplicité apparente, mais en fait, enfin, c'est ça aborde un ensemble de choses extrêmement complexes. Mais Nicolas, dans sa critique, parlait aussi de l'équilibre entre le dit et le non-dit, que je trouve particulièrement réussi dans le film. Et donc il y a toute une suite de conversations avec les différentes personnes qu'elle va rencontrer pour parler de ce qui s'est passé et de comment du fait qu'ils n'ont pas réagi à l'époque et pour quelles raisons, et enfin pour essayer de comprendre quelle a été leur position. Alors moi j'ai été frappée par le fait que toutes les personnes à qui elle s'adresse quelque part ramène ce qu'elle dit à eux-mêmes, pas forcément d'une manière malveillante toujours, pas forcément intentionnellement, mais il y a une sorte de surdité collective, de refus d'entendre ce que elle a vécu et de le rapporter à ce que eux vivent. Alors quelque part c'est aussi ce qu'elle leur demande. Elle leur demande d'exprimer comment ils ont vécu la chose et pourquoi du coup ils ont agi de la manière dont ils ont agi. Mais j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et fort.
C'est le cas de sa mère notamment.
C'est le cas de sa mère.
Déplorer les viols qu'elle a subis, déplore la cassure
de sa relation avec sa fille.
Estime-t-elle, est intervenue dans sa relation avec sa fille à l'époque. Oui.
Oui. La première conversation avec la mère est d'ailleurs assez rude. Enfin, c'est il y a deux échanges avec la mère en fait. La première se passe assez mal. La première rencontre parce que. Quelque part, la mère finit par reprocher à Christine Angot de pas lui avoir dit à l'époque ce qu'elle vivait, de pas avoir été capable de le faire. Et c'est comme si elle retournait la situation et que la victime devenait accusée, en fait. Et c'est un peu ce qui se passe de manière récurrente. C'est aussi ce qu'on voit de manière absolument terrible quand elle repasse la scène de Tout le monde en parle avec Thierry Ardisson qui se moque d'elle, en fait, qui la prend de haut, comme si, en fait, le fait que le sujet de son livre, ce soit les viols qu'elle a subis par son père, n'était pas du tout pertinent. En fait, personne n'en a rien à faire de ça.
Et tout le plateau, simplement sur YouTube retrouver ces extraits dans leur intégralité.
Et donc, c'est une scène particulièrement violente et infecte. Et le fait de la faire précéder de l'émission. Dans un extrait radio du Masque et la Plume des années plus tard montre l'évolution de la société, même si on est certainement encore loin de ce qu'il faudrait, mais l'évolution
avec notamment une défense menée par Arnaud Vivian,
sur son travail
d'écrivain.
Et donc je suis tout à fait d'accord avec toi aussi sur son intransigeance sur le fait de reprendre les mots des personnes concernées et de ne jamais lâcher, de toujours dire de toujours insister pour pousser les gens à réenvisager la manière dont ils se sont comportés.
Pour dire ce n'est pas ce qui s'est passé, ou ce n'est pas ainsi qu'on nomme la chose.
Oui. Particulièrement fort, et du coup c'est extrêmement émouvant aussi comme film. Il y a aussi le fait qu'elle emploie, elle utilise des photos et des vidéos d'archives intimes, personnelles, qui sont pas des illustrations de ce qu'elle dit, ça montre la petite enfance de sa fille, Léonore, et mettre ça en parallèle des échanges qu'elle a, ça rend le film particulièrement poignant et mélancolique. Et donc, l'ensemble est extrêmement fort et je pense important à voir.
Florent.
Ouais, si je devais sous-titrer le film, je parlerais du temps et de la solitude. Parce que je rebondis sur tout ce qu'a dit Julie, effectivement, il y a une notion du temps passé, parce que c'est quelqu'un qui écrit depuis plus de 30 ans, donc qu'on connaît. Qui a une voix forte de la littérature française et qui pourtant, ça c'est quelque chose qui me marque énormément. Alors elle a reçu d'ailleurs le film en parle. Elle a reçu le prix Médicis pour le voyage vers l'Est l'année dernière, en 2023. 2023 ou 2022. Donc c'est très récent. C'est quelqu'un qui écrit sur l'inceste, sur son expérience de l'inceste depuis plusieurs décennies. Et on a le sentiment qu'on découvre qu'elle a un talent d'écrivain. Moi, ça me subjugue un petit peu. Et le film parle de ça. Il parle du fait que, et je pense que le fait de montrer l'émission d'Ardisson, c'est pas uniquement pour régler des comptes avec Ardisson, parce que à la limite, je pense que c'est pas ce qui est le plus important dans sa vie, mais ça dit quelque chose en fait de ce qu'elle a pu vivre pendant ces trois décennies, et ça illustre quelque part la société française, c'est-à-dire que pendant longtemps, on n'en avait rien à faire en fait. Elle pouvait raconter exactement la même chose et avec une virtuosité littéraire, parce que c'est quelqu'un qui écrit très bien, on s'était à peine relevé. Aujourd'hui, il y a eu des livres comme le livre de Vanessa Springora, il y a eu des livres comme le livre de Camille Kouchner, il y a eu des livres comme celui de Neige Sinnot.
Qui est cité d'ailleurs dans le film, je crois que c'est à l'occasion de cette émission du Masque à la plume qu'écoute Christine Ongo chez elle, et c'est Arnaud Vivian qui dit que voilà, le regard et la société ont changé aussi parce qu'il y a eu ce livre-là.
Il y a eu le livre de Camille Kouchner, et donc celui de Neige Sinnot dont je parlais, Triste Tigre, qui a eu aussi le Femina cette année, qui est de la même façon, la dissection d'un inceste subi pendant 10 ans par Neige Sinnot, par son beau-père. Donc on sent bien qu'aujourd'hui le regard de la société française se porte pour la première fois véritablement sur quelque chose qu'elle a en son sein depuis très longtemps. Et donc on regarde Christine Ongo pour la première fois, Christine Ongo qui fait un vrai travail de cinéaste dans le film, faut quand même le signaler. On n'est pas eu, parce qu'on pourrait se poser la question, oui, elle a eu le prix Médicis il y a peu de temps, son œuvre parle pour elle, pourquoi faire un film en plus entre guillemets de tous ces magnifiques romans. Eh ben, elle fait un vrai travail de mise en scène, elle fait un vrai travail où elle interroge, donc cette façon d'interroger, de provoquer des situations complètement incroyables qui sont vraiment le point fort du documentaire, du genre documentaire d'une manière générale, où il se passe quelque chose d'inattendu. Il se passe toujours des choses inattendues dans le documentaire, et là c'est particulièrement prégnant, à savoir qu'elle met le pied dans la porte chez sa belle-mère, et là il se passe quelque chose.
On en parlait tout à l'heure justement avant l'émission, parce que ce matin nous étions toutes et tous en avance, et effectivement cette première scène, la rencontre avec l'ancienne belle-mère de Christine Ongo, moi c'est quelque chose que j'ai l'impression de ne jamais avoir vu sur un écran de cinéma.
Ouais, et c'est quelque chose de presque inédit, et j'en parlais dans ce off avant l'émission. À la limite, la seule chose qui m'évoque ça, c'est le film donc d'Agnès Varda et J.R. où elle va voir Jean-Luc Godard, sauf que Jean-Luc Godard est une absence dans le film. Là, c'est pas une absence, c'est une vraie confrontation, et cette confrontation a des répercussions sur la fin du film. C'est là que je dis qu'il y a un vrai travail de mise en scène et de cinéaste, c'est que tout ce qu'elle pose n'est absolument pas de l'esprit de vengeance, de revanche ou quelque chose de gratuit, c'est quelque chose qui est pensé, qui est développé dans le film, argumenté et qui fait vraiment film. Et ça, je trouve ça vraiment très très impressionnant. En plus, c'est l'occasion d'entendre la voix d'Ango, de sortir du cliché de ce qu'on a pu voir d'Ango, notamment chez Ardisson, parce que enfin, juste pour faire une toute petite parenthèse, moi je suis suffisamment vieux pour me rappeler d'avoir vu ces émissions à l'époque et de comment est-ce que cette émission pouvait façonner un petit peu l'opinion publique, d'à quel point elle participait d'une certaine orchestration du spectacle dégoûtant que la télévision française pouvait provoquer, et où on avait, on a cette scène où on a Sarah Marshall qui était rien du tout et qui est certainement pas quelqu'un de méchant ou d'agressif ou de fondamentalement mauvaise, mais qui participait de cette espèce de marasme, de bourbier que créaient Ardisson et Laurent Baffy à ce moment-là, où on se moquait en fait de l'invité qui passait, où on disait tout et n'importe quoi, où elle se retrouve en victime expiatoire de cette espèce de spectacle dégoûtant.
Ce que je préfère dans le registre du dégueulasse, paradoxalement, c'est presque l'intervention de Linda Hardy. Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie, Christine?
mais parce que Linda Hardy, c'est quelqu'un qui est premier degré dans cette émission-là, et qui, d'ailleurs, qui a disparu très vite de l'émission, il faut quand même le rappeler, elle était là, ex-Miss France, on l'a mis comme une vitrine pendant une année, je crois, et puis tout de suite on a évacué, Laurent Baffy est là et on est entre mecs, et on se gargarise de notre bon humour et du spectacle qu'on crée aux dépens des gens qu'on invite. Et Ango raconte ça, elle raconte vraiment de l'évolution de tout ça, de comment, et vraiment, je trouve ce qui a été dit donc avant sur les mots et le sens des mots est particulièrement frappant dans le film. Ça, c'est propre à Ango, c'est quelque chose qu'elle fait depuis très longtemps, mais qui lui permet de raconter son histoire. C'est qu'en fait, chacun se calfeutre derrière sa propre subjectivité en oubliant le sujet. Et le sujet, elle le fait exploser en premier lieu. Et elle le fait avec brio et notamment, encore une fois, je le répète, avec beaucoup de cinéma. Il y a beaucoup de cinéma dans son film.
Oui, Francis, tu voulais intervenir.
Oui, parce que j'ai pas vu le film, mais en vous écoutant, je repensais à quelque chose, et par rapport peut-être à un désir de cinéma de Christine Angot, c'était peut-être à un moment de s'approprier justement le cinéma qui est plus loin d'elle que la littérature, et peut-être d'aller plus loin, puisque on peut dire que le cinéma a déjà évoqué Christine Angot, mais sous le fait de la fiction, tout en évidemment se plongeant dans un de ses romans, c'était le film de Catherine Corsini, ouais. Un impossible amour, et je me suis demandé, comme j'ai pas vu le film, c'est plus une question que je vous pose en fait, si comme ça il y a un désir de se dire aussi, je m'approprie jusqu'au bout le cinéma, puisque pour l'instant ça a été raconté, mais par une tierce personne, et que finalement quelque part c'est le point de vue de la mère, puisque on est du point de vue du personnage interprété par Virginie Efira, et qui est la mère que Christine Angot va retrouver dans Une famille. Et que donc ce film a peut-être un prolongement et une accaparation totale du moyen d'expression.
Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, il est étonnant de découvrir sur grand écran la mère et la fille de Christine Angot, quand on les a vus incarnés par Virginie Efira. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser, j'oublie le nom de la jeune interprète qui a interprété la fille de Christine Angot dans Un amour impossible, mais... Voilà, ça produit un effet assez singulier que de découvrir le vrai visage de la mère et de la fille de Christine Angot quelques années plus tard, et cette fois-ci pas dans le cadre d'une fiction. Mais
ben, moi je pense que la réponse elle est dite par Angot dans la première, enfin dans cette scène où elle va chez sa belle-mère, où elle dit face caméra, en s'adressant à Caroline Champetier, donc immense technicienne française. Assez connue, elle lui dit à elle et donc aux autres techniciennes qui sont là, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous soyez là, j'ai besoin que vous m'accompagniez dans cette démarche. Donc quelque part, elle a besoin de cette expression-là, de ce regard de l'extérieur pour se sentir supportée et alliée pour la première fois de sa vie. C'est jusqu'à maintenant, l'écriture, et je parlais du temps et de la solitude, c'est que l'écriture, c'est la solitude. C'est l'exercice seul par excellence. On peut créer tout seul. Et le film parle du fait qu'elle s'est sentie toute sa vie seule vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'inceste, jusqu'à une scène donc, que je vais pas disséquer pour laisser un minimum de plaisir aux gens qui l'auraient pas vu. Mais... où cette solitude est rompue, et je pense que le cinéma permet de rompre une nouvelle fois cette solitude et de l'accompagner vers quelque chose où elle se sent un peu moins mal par rapport à tout ça.
Une famille de Christine Angot, c'est en salle depuis ce mercredi. Dernier film de cette table ronde, Le mal n'existe pas, c'est le nouveau film de Ryusuke Hamaguchi, auteur notamment de Senses, Contes du hasard et autres fantaisies et Drive My Car. L'ami Michael Ganem, que nous saluons, était à Berlin l'an passé, tiens donc, mais Florent Boutet aussi.
À Venise.
Bon, deux erreurs pour une émission. Je suis sur un rythme relativement familier. Le film était donc présenté à Venise en compétition officielle, et Michael Ganem en résumait ainsi l'enjeu. À Mizubiki, un village non loin de Tokyo, la vie s'organise autour de la nature environnante. Takumi, homme à tout faire, plein de bonne volonté, vit seul dans une petite maison en forêt avec sa fille Anna. Un jour, les habitants apprennent que non loin de chez Takumi, une entreprise compte établir un site de glamping, du camping glamour, et n'a pas pris en compte de nombreuses considérations écologiques et sanitaires. Que va-t-il advenir du village si la construction est lancée et que le mode de vie local est bouleversé? Florent, tu avais donc découvert l'an dernier, toi aussi, le film à Venise. Francis, j'ai souvenir la semaine passée d'une conversation autour du film, à l'occasion de laquelle tu m'avais dit ton intérêt pour sa musique, signée Eiko Ishibashi, et son utilisation. Peut-être nous en diras-tu un mot, car je crois que le film en question est le corollaire ou le pendant d'un projet musical. Julie, quant à toi, tu as découvert le film à Paris. Qui veut ouvrir les hostilités?
Bon, allez, je veux bien.
Allez, Francis.
Allez, parce que en fait, il y a un espèce de paradoxe face au film de Hamaguchi. C'est qu'en en sortant, j'étais à peu près dans l'incapacité d'en parler et d'avoir un avis bien figé dessus. Et comble, j'ai dû répondre à l'attaché de presse. Quel est ton point de vue sur le film? Réponds-moi vite. Et là, j'ai commencé par dire qu'effectivement, j'ai le sentiment d'avoir découvert un grand film, mais j'étais incapable, finalement, de savoir par quel boule prendre. Est-ce que c'est dire que maintenant, de toute façon, Hamaguchi, il est installé dans la cinéphilie mondiale, et donc on peut pas l'oublier, et que à juste titre, c'est un grand auteur. Alors, que cette que j'étais peut-être désemparé par cette soudaine escapade cinématographique campagnarde, qui est le début du film, qui prend son temps et qui est loin des habitudes citadines d'Amaguchi, même si d'un seul coup tout revient, c'est-à-dire que on est de nouveau rattrapé par les éternels enjeux citadins qui souvent intime, mais ici aussi, ça dépasse ce cadre de l'intime. Il y a le politique qui est derrière, il y a l'écologie, t'en parlais un tout petit peu. Donc, est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était de me dire, à chaque fois, de toute façon, moi qui dis parfois pique-pende sur l'outil scénario, eh ben, chez Amaguchi, de toute façon, à la fois, je trouve que c'est très subtil dans la manière dont il brosse les caractères, et qu'à chaque fois, il a ce qu'on appellerait dans le langage scénaristique des twists, mais ces twists, à chaque fois, me saisissent, me surprennent. Je me dis pas, ah oui, bah voilà, c'est un twist, quoi. Non, là, c'est à chaque fois quelque chose qui m'emmène à un endroit auquel je m'y attendais pas, et que je trouve que ça, il le fait avec une grande subtilité d'écriture. Après, évidemment, il y a ce titre, « Le mal n'existe pas », et qui d'emblée, de toute façon, assène quelque chose, et où on se dit, mais forcément, le mal existe, et quand est-ce qu'il apparaît? Quand est-ce qu'on va le voir arriver? Ou alors, est-ce que, en fait, effectivement, il n'existe pas? Et que peut-être, en fait, jamais il va arriver dans le film? Donc ça aussi, c'est saisissant, et puis après, ben, effectivement, il y a... Puisque tu parlais de la musique et de fait que effectivement il y a eu au point de départ un projet qui était un projet musical et où Amaguchi a fait des images pour une création musicale et donc des images qui étaient muettes. Finalement, c'est la musique qui concourt à porter cette dimension du mal qui serait existant, à la fois par l'écriture même de la partition, qui est quelque chose de très dynamique et de très fortissimo. On est dans une bande-son musicale plutôt forte et qui très souvent est coupée cut à l'intérieur d'une phrase, à l'intérieur d'une note, par Amaguchi, le truc qu'il faut pas faire et que tous les compositeurs vont dire « Ah non, mais t'as massacré ma musique, là !» Oui, mais sauf qu'il a pas massacré, parce que d'un seul coup, ça prend une dimension monstrueuse. Et puis que après, on a ces espèces de repères, comme on dit, amaguchiniens. Ouah, je viens d'inventer un adjectif. Les repères amaguchiniens, qui sont donc les discussions interminables dans une voiture, ouais. Mais simplement absolument géniales et saisissantes à chaque fois, à peine découpées. Ou alors on se dit, par exemple, dans ce film-là, avec les deux citadins qui sont les deux membres de l'agence publicitaire qui, eux, vont au contact des habitants de la petite ville... qui se livrent sur leurs désirs, sur leurs attentes, sur leur tristesse, et ils découpent, il y a trois plans, et on se dit, mais pourquoi finalement, presque, pourquoi t'as fait trois plans? Est-ce que c'était nécessaire de les faire? Et on a comme ça ces repères, finalement, qui font que, au final, voilà, peut-être que là, par contre, c'est un peu pêle-mêle et foutoir dans ma façon d'exprimer les choses, mais qui font en fait qu'on est face à un film qui quelque part bouillonne et saisit, et on est dans un Amaguchi au champ pour une fois, et que ça lui réussit assez bien aussi.
Je suis à nouveau assez d'accord avec ce que dit Francis. Tu parlais du titre « Le mal n'existe pas ». Alors, dans la projection que j'ai vue, le titre était indiqué au début en anglais. Je ne sais pas si ce sera toujours le cas. Et c'était d'abord « Evil does exist » et le note apparaît un peu après. Donc, cette idée de « Est-ce qu'effectivement, il n'existe pas? Est-ce qu'il va finir par arriver à un moment? Est-ce qu'il est... » ça contribuait à cette impression. Et moi, j'avoue, j'étais un petit peu déroutée par la fin, pas sûre de bien comprendre quel était le sens. Enfin, je comprends les thématiques du film, je comprends un certain nombre de choses, mais sur la fin, j'étais un peu perplexe et pas très sûre d'avoir bien saisi. Mais je trouve que le film est d'une très grande poésie, avec la musique dont tu parlais, mais aussi une grande poésie visuelle. Je pense notamment au moment où Takumi, le personnage principal, va chercher sa fille la première fois et que les enfants sont en train de jouer à 1, 2, 3 soleil et que ça commence par une sorte de travelling sur les enfants immobiles dans le plan et qu'ils reprennent le mouvement parce qu'ils sont en train de jouer à 1, 2, 3 soleil. Mais enfin, ça a créé du coup des images un peu étranges, un peu comme onirique. Et c'est une ambiance qui est vraiment présente dans tout le film, qui est à la fois paisible et à la fois inquiétante, puisqu'il y a cette question du mal qui existe ou pas. Mais il y a aussi beaucoup d'humour. Déjà, rien que le terme glamping, j'ai découvert l'existence de ce mot, je ne savais pas que ça existait. apparemment ça existe bien. Mais du coup, cette opposition du bon sens laconique du personnage principal et le duo des agents publicitaires qui sont une sorte de duo comique par moment aussi. Dans leur confrontation aux habitants, genre oui, effectivement, on comprend maintenant qu'on n'y connaît rien et on veut apprendre de vous. Et donc, oui, donc je trouve que c'est un très beau film qu'on peut avoir du mal à cerner, mais qui est assez fascinant.
Florent.
Ouais, alors on a un dénominateur commun à cette émission aujourd'hui, c'est qu'on parle quand même, on a pour la moitié du programme de réalisateurs d'Extrême-Orient, et j'en félicite encore une fois Monsieur Fouet. Donc Amaguchi, donc c'est je me sens proche de lui, on a le même âge, donc c'est quelqu'un qui est en milieu de quarantaine, qui comme beaucoup d'auteurs qu'on a cités aujourd'hui, arrive pas tout de suite en Occident. On est encore dans ce temps long de la découverte de grands auteurs japonais, parce que s'il a explosé avec Drive My Car, c'est quelqu'un qui réalisait des films déjà depuis plus de 10 ans.
Et comme ce fut le cas d'une certaine façon pour son mentor Kiyoshi Kurosawa.
Ouais, qui était un petit peu la figure tutélaire au Japon et qui est un peu supplanté justement par Amaguchi. Ils avaient fait un film ensemble où l'un était au scénario, Les Fameux Amants. Je sais plus exactement le titre, enfin, qui était un film télé à la base japonais qui était devenu un film de cinéma, mais qui avait été un projet commun assez réussi entre eux.
Il y a un nouveau Kurosawa qui arrive, hein, qui est dans les tuyaux, qui est post-produit, et nous en parlerons sur ces ondes.
Ouais, et puis on peut s'en féliciter, parce que c'est des auteurs qui deviennent un petit peu rares, malheureusement. Et donc lui, il a réussi quand même le tour de force d'être Grand Prix à Berlin pour Conte du hasard, prix du scénario et Oscar du meilleur film étranger pour Drive My Car, et donc il a eu le Grand Prix à Venise pour celui-là. Donc c'est quelqu'un qui se fait remarquer à l'international, qui est devenu un petit peu le grand réalisateur japonais du continent. Contemporain, et notamment pour ce que disait Francis, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est fait connaître par des tropes très déterminées, à savoir l'écriture de dialogue, notamment dans les voitures. Son premier film Passion, qui était ressorti justement parce qu'il s'était fait connaître, était un modèle du genre où ça discute, ça parle en long et en large pendant plus de 2h30. Et c'était fabuleux. Moi, j'avais adoré ce premier film qui faisait film de fin d'études, mais qui pourtant était vraiment vraiment fascinant. Là, il casse un petit peu le moule, mais pas totalement, donc on est vraiment dans quelque chose de plus rural. Et là où il casse vraiment le moule, c'est avec son personnage principal. Donc alors, le personnage principal, donc il est joué par Hitoshi Omika, qui est pas acteur. Donc c'est il y a aussi ça qui est étonnant, c'est dans la confection du casting, parce que si les visages peuvent paraître un petit peu neufs et frais pour l'occidental qui connaît pas trop, et moi le premier, je suis loin de connaître tous ces acteurs, là en l'occurrence ils sont frais pour tout le monde, parce qu'on a des acteurs, on a un casting qui est composé de gens pour qui sont des collaborateurs fréquents et réguliers d'Amaguchi, mais qui sont pas des acteurs professionnels, des acteurs de métier. Hitoshi Omika, c'est quelqu'un qui était réalisateur de seconde équipe pour des films précédents d'Amaguchi ou directeur de production. Donc on est sur quelqu'un qui est loin d'être comédien. Et ça peut expliquer aussi une certaine retenue, une certaine réserve dans sa façon de jouer et son côté taiseux qui est assez fascinant. Et comme beaucoup de personnages taiseux, quand il se met à parler, il se passe quelque chose. Donc quand on est dans cette magnifique scène, je trouve que c'est une des plus belles scènes du film, c'est quand on est dans la consultation publique avec les deux personnages donc de Tokyo qui sont là, qui sont envoyés un peu au casse-pipe parce que les grands courageux qui sont à la tête du projet ne veulent pas gâcher de leur temps avec la plèbe. Donc on les envoie au casse-pipe, et d'un seul coup, il y a ce personnage qui se lève, qui se dresse et qui se met à parler. Et là, il se passe quelque chose, il se passe un truc. Et alors que jusque-là, on le voyait couper du bois, on le voyait faire des activités manuelles et être en communion avec la nature. Il y a cette idée très forte de communion avec la nature. Et le personnage est un peu le véhicule comme ça du film. Et il apporte cette étrangeté, une étrangeté qui porte même physiquement, corporellement. Et jusqu'à cette fin, donc très 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 étrange, où on se débarrasse complètement du dialogue, on se débarrasse complètement de ce côté très écrit qui est sa marque de fabrique, et où on est dans quelque chose de plus onirique, de plus complètement et un lâcher prise total, et qui est le grand geste du film. C'est que on laisse tomber le périmètre de sécurité et on se lance comme ça dans une espèce de leap of faith, comme on dit en anglais, ce saut dans l'inconnu et de où il faut vraiment croire en ce que l'on fait. Et ça donne quelque chose de complètement déroutant et fascinant. Et c'est ça qui fait la grandeur du film en soi. C'est que Hamaguchi, qui pourrait se reposer sur ses acquis, sur ses lauriers de grand cinéaste international, tente quelque chose de nouveau. Et au-delà du film, moi, ça me fait me demander qu'est-ce que le garçon va pouvoir faire à l'avenir, parce que j'ai hâte de voir la nouvelle étape qu'il pourrait construire dans son œuvre, parce que ce qu'il nous délivre là, ouais, ça résonne longtemps quand même, hein, dans la tête. On se demande vraiment effectivement qu'est-ce qu'il a pu faire. Quel est le sens véritable de ça? Toute le côté, l'animalité, on rejoint presque le film d'animation de tout à l'heure de Nordstein, ou avec la communion avec la nature. La figure du cerf, c'est ce cerf, parce qu'on est sur le glamping, justement, est construit sur le chemin des cerfs, sur l'habitat naturel de ces animaux-là. Et ce passage de l'humain, de l'urbain au chemin des cerfs, ça apporte quelque chose de fabuleux à son œuvre, je trouve.
Le mal n'existe pas. C'est donc en salle à compter du 10 avril. Je vous propose à présent qu'on fasse une toute dernière et très courte pause musicale. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour la toute dernière partie, pour l'ultime partie, cette fois c'est une promesse, de l'émission. À dans quelques instants, chères auditrices, chers auditeurs.